dans ces propos de Jésus comme dans cette lecture du Siracide, on a le sentiment que se déploie une forme de sagesse humaine dont on se demande ce que finalement le Christ lui-même vient apporter de neuf par rapport à ce que nous aurions pu nous-mêmes déduire par nous-mêmes. Et pourtant, Jésus n'est pas simplement là en train de nous faire une leçon de morale, parce que précisément, Jésus, ici, vient pointer du doigt probablement quelque chose comme notre propension à se faire juge de nos frères, à être des redresseurs de tort, à ceux qui en nous pousseraient à être, à engager la relation sous le mode du reproche. Or, il s'agit pour Jésus d'être des disciples. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Si nous étions au-dessus du maître, alors nous pourrions nous comporter comme des maîtres et nous pourrions nous placer en surplomb et puis nous pourrions même juger Jésus puisque nous serions le maître. Nous ne sommes pas au-dessus du maître, nous sommes disciples. Mais une fois bien formés, chacun sera comme son maître. On pourrait dire, tiens, je suis disciple, je ne vais jamais être non seulement au-dessus du maître, mais je ne vais même pas être comme le maître, je vais être en dessous. Un disciple, normalement, semble être à un rang inférieur. Non, Jésus nous dit que le disciple, une fois qu'il a un cœur bien formé, va être comme son maître. Donc, le disciple du Seigneur va prolonger l'action du maître, va laisser passer au travers de lui l'action du maître. Il va laisser passer la charité du maître, la sagesse de son maître. Il va en être le canal, le vecteur, celui qui va l'offrir aux autres. C'est étonnant, c'est que devenir disciple pour devenir comme le maître, cela est inhabituel. Les grands maîtres, ceux qui veulent être des maîtres ou ceux qui s'arrogent le titre de maître, en général, entretiennent leur cours de disciples autour d'eux, pour pas dire à leurs pieds, des admirateurs, ceux qui essayent de répandre plus ou moins adroitement et plus ou moins fidèlement la sagesse du maître. Si nous sommes devenus comme le maître, parce que notre cœur a été formé par ce maître, alors cela veut dire que Jésus considère que nous avons en quelque sorte un magistère. Nous avons une autorité, nous portons l'autorité du maître. On le voit dans l'évangile, quand Jésus envoie les siens annoncer l'évangile, chasser les démons, faire des guérisons, ils ont autorité. Ils ont l'autorité de Jésus. Ils peuvent exercer au nom de Jésus son autorité. Et un disciple du Christ va donc agir non pas en son nom propre, mais il va agir au nom du Seigneur. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous disons très souvent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, pas en mon nom, mais en ton nom à toi, Seigneur. Voilà que le disciple va donc porter véritablement l'efficience, la puissance, l'autorité de son maître et l'exercer. Et nous avons des frères. Et si nous avons des frères, ils sont nos égaux, ils sont nos pères, P-A-I-R-S, et donc c'est que nous avons un Père, le Père éternel, qui fait de nous des frères. Et si je suis dans l'autorité de Jésus, comme disciple de Jésus, alors j'apprends à me mettre sous l'autorité du Père, je deviens un adorateur du Père en esprit et vérité, je regarde en vérité, ces quidam, ces anonymes qui sont à côté de moi à la messe, vous les avez regardés d'ailleurs ? Vous les avez regardés, les gens à côté de vous à la messe ? Non, pas encore. Eh bien, ces gens-là sont vos frères. Et ils ne le sont pas facticement, ils ne le sont pas virtuellement, ils le sont réellement. D'accord, on peut être aussi amoureux, mais Blanche, tu es amoureuse d'un frère, voilà. Et arrête de rougir. Et donc, voilà que ces frères que Dieu me donne à aimer, au nom du Seigneur, Dieu peut me demander de les corriger. Il y a plusieurs endroits d'ailleurs où dans l'Écriture où ça, on nous en parle. Vous savez que les parents envers les enfants, alors les enfants se bouchent les oreilles. C'est Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, il dit aux parents qu'il faut qu'ils réprimandent leurs enfants. Mais il dit par des paroles inspirées du Seigneur, pas inspirées de leur système nerveux. Vous savez, les parents, un jour, ils ont tous eu envie de défenestrer leurs enfants. On va pas se mentir. Hein. Mais là, ils sont inspirés par leur système nerveux, qu'on peut plus. Ok ? Mais non, inspirés du Seigneur. D'accord ? Donc, sous la fenêtre, il y aura un matelas amortisseur. Non, c'est pas ça. Mais en fait, ça veut dire qu'ils ne feront que ce qui est bon pour la croissance de leur enfant, pour la croissance du royaume dans cet acte éducatif. Et quand Jésus parle de cette histoire de paille et de poutre, qu'on connaît par cœur, que nous recevons souvent comme une sorte de parole un peu moralisatrice, « Faut pas juger les gens, faut être gentil. » Non, non, c'est pas ça que dit Jésus. Parce qu'il dit, « Quand tu verras clair, tu pourras enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Il est légitime, parfois, d'enlever la paille qui est dans l'œil de son frère. Ça peut être légitime. Si c'est au nom du Seigneur, si c'est pas en mon nom, si c'est inspiré du Seigneur, pas inspiré de mon agacement ou de mon jugement dans lequel je me fais une sorte, je m'instaure, je m'érige en autorité de mon frère. Non, je n'ai d'autre autorité que celle donnée par le Seigneur. Alors, si je suis dans la lumière de Dieu, je verrai bien que moi j'ai une poutre, que moi je suis appelé à la conversion, et je suis un pauvre pécheur appelé à se convertir, appelé à ce que le Seigneur forme en moi sa présence et sa vie, et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai la juste position qui me permettra de retirer la paille dans l'œil de mon frère. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens que nous venons de lire, le dit d'une autre manière. « Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. » Prendre une part active à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur qui nous a mis dans cette position d'être comme le Maître, qui nous donne cette autorité, nous permet de prendre une part active à l'œuvre du Seigneur. De d'œuvrer donc activement pour l'œuvre de Dieu, de travailler à l'œuvre de Dieu. Non pas simplement, vous voyez, de faire des choses pour Dieu, comme des disciples ou des serviteurs qui font des choses pour nous. Non, non, de faire l'œuvre de Dieu. D'être nous-mêmes les artisans, les ouvriers de l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, ici, tous les baptisés que nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu, à y prendre une part plus active. Et nous sommes investis de cette autorité du Maître. Et nous pouvons parler en son nom. Nous pouvons chasser des démons en son nom. Nous pouvons guérir en son nom. Nous pouvons prêcher en son nom. Nous pouvons le rendre vivant et présent partout où nous sommes. En son nom, nous pouvons, dans notre lieu de travail, dans notre vie familiale, dans nos liens sociaux, quels qu'ils soient, porter le regard clairvoyant du Seigneur. Cela ne nous met pas au-dessus d'eux, au sens où nous serons meilleurs qu'eux, car nous avons des poutres. Mais cela nous investit de cette mission de rendre présent le Christ partout où nous sommes. Et parfois de parler, et parfois de dénoncer une injustice, parfois de corriger, de relever, de consoler nos frères en son nom. En fait, le disciple du Seigneur est un disciple qui ressemble à aucun autre disciple de tous les autres maîtres de la terre. Car notre maître n'est pas un gourou qui nous asservit, il nous donne une autorité. Il nous rend véritablement, nous aussi, des maîtres en parole de Dieu. Nous avons tous, par le baptême, en quelque sorte, un master en parole de Dieu, pour parler en son nom. Nous sommes surdiplômés, le plus péquenaud, avec un QI de 2 parmi nous, est un docteur en parole de Dieu. Voyez ? C'est-à-dire que nous avons véritablement cette capacité, cette puissance de discerner les esprits et d'annoncer, de dire « ça, ça vient du Seigneur ». Un jour, ça faisait quelques années que j'avais à mon compteur de directeur de patronage, et un jeune est venu me voir et m'a dit « le Seigneur me dit que vous n'allez pas bien, Père de Mello ». Et il me dit « Père de Mello, c'est une attaque spirituelle que vous subissez ». Et je dis « Mais t'es qui toi pour me dire ça ?» Et il avait complètement raison. Et je suis allé recevoir une prière de délivrance par un exorciste. C'est un gamin qui m'a dit ça. Il a exercé son autorité spirituelle au nom du Seigneur. Et donc, il y a un moment donné, il faut que nous, baptisés, nous prenions cela au sérieux. Or, notre grande tentation, c'est de nous dérober, d'être, vous savez, Jonas qui se taille, d'être Moïse qui dit « Seigneur, non mais je ne veux pas dire ça au Pharaon, en plus je suis bègue, je ne suis pas le bon type, choisis-en un autre. » Non, non, te dérobe pas. Ne te dérobe pas. Tu es investi de cette parole d'autorité que je te donne, si tu l'exerces en mon nom. Et la correction fraternelle, c'est difficile, hein. En fait, ça demande beaucoup d'humilité de dire une parole de correction au nom du Seigneur. C'est beaucoup plus facile, encore une fois, de soulager son système nerveux, de faire un reproche. Mais parler au nom du Seigneur, c'est difficile. Et annoncer le royaume, c'est difficile. On a envie de se dérober. Nous avons tous des occasions où nous voyons que nous pourrions témoigner du Christ. Nous pourrions annoncer le royaume. Nous préférerions être dans les 72 disciples, le gars qui se cache au dernier rang, vous voyez, derrière le palmier, là, qui dit « J'espère qu'il ne m'a pas vu. » Vous voyez ? Ah ben si, il t'a vu, et il t'appelle. Et il te donne autorité. Et vous voyez, peut-être que, comme nous péchons toujours sur la grâce que nous avons reçue, le prédicateur, il pêche par prédication. L'intellectuel, il pêche par son intelligence. Chacun pêche par la grâce qu'il a reçue. Et nous avons tous reçu comme grâce, par l'onction baptismale et le sacrement de la confirmation. D'ailleurs, si vous n'êtes pas confirmé, il faudra remédier à ça très vite, les amis. Je vais faire un sondage. Si nous avons reçu le baptême et la confirmation, nous pouvons pécher par dérobade de notre baptême. Je me dérobe de mon baptême et de ma confirmation. Et je me dérobe de l'autorité que le Seigneur me donne. Alors évidemment, tous n'ont pas les mêmes charismes, dit saint Paul, dans le corps du Christ. Mais tous, nous sommes appelés à prendre une part plus active à l'œuvre du Seigneur. Donc, une prière que chacun peut faire, c'est « Seigneur, quelle est la part plus active que je peux prendre à ton œuvre ?»« Seigneur, tu m'habites, je suis le temple de l'Esprit Saint, je suis membre de ton corps, je suis un fils de Dieu le Père éternel, envoie-moi, donne-moi de donner du fruit. » Permets-moi de porter du fruit. Et c'est frappant le nombre de gens qui pensent que leur vie ne porte pas de fruits. Parce que nous avons des déceptions. J'ai pas réussi à me marier, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas eu le job que je voulais, j'ai pas fait la carrière que je voulais. Et alors, on peut passer notre existence à souffrir du fruit que nous aurions voulu porter, que nous n'avons pas porté. Et nous oublions de demander à Dieu, mais comment puis-je prendre une part plus active à ton œuvre ? Quel est le fruit éternel que tu veux que je porte ? Un fruit qui demeure, dit Jésus, un fruit d'éternité, un fruit du royaume de Dieu. Parce que Seigneur, moi qui suis ton disciple, tu t'es formé en moi, tu as formé ta vie en moi et tu m'as fait maître de ta parole pour le royaume de Dieu. Et bien, frères et sœurs, peut-être que ce pourrait être pour le carême qui va démarrer une belle prière que chacun pourrait formuler. Seigneur, donne-moi d'avoir une part plus active à ton œuvre. Et peut-être que mon point de conversion pourrait se situer sur le point de ma dérobade. Seigneur, vraiment guéris-moi de ma dérobade. Chasse ma stratégie de fuite de ta grâce. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Je veux bien me mettre à ton service. Que le Seigneur nous en fasse la grâce, car il nous en donnera ainsi la joie. Amen.